Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous. Puisque cette semaine nous parlons de virilité, tendez l'oreille. Voici entrer en scène le baron de Charlus, Palamède de son prénom, le frère cadet du duc Bazin de Guermantes et de Madame de Marsante. C'est l'un des personnages principaux de la Recherche du temps perdu de Marcel Proust qui offre au lecteur les plus belles pages de voyeurisme et de sadomasochisme. Charlus aime les hommes, il prône la virilité tout en cultivant sa féminité. Alors quand le narrateur de la Recherche le rencontre pour la première fois, il manque d'éléments pour comprendre ce visage atypique avec des yeux qui lui sortaient de la tête et le compare à un fou ou à un espion. Écoutez plutôt.
Comme je passais seul devant le casino en rentrant à l'hôtel, j'eus la sensation d'être regardé par quelqu'un qui n'était pas loin de moi. Je tournai la tête et j'aperçus un homme d'une quarantaine d'années, très grand et assez gros, avec des moustaches très noires, et qui, tout en frappant nerveusement son pantalon avec une badine, fixait sur moi des yeux dilatés par l'attention. Par moments, ils étaient percés en tous sens par des regards d'une extrême activité, comme en ont seuls devant une personne qu'ils ne connaissent pas, des hommes à qui, pour un motif quelconque, elle inspire des pensées qui ne viendraient pas à tout autre, par exemple des fous ou des espions. Il lança sur moi une suprême œillade, à la fois hardie, prudente, rapide et profonde, comme un dernier coup que l'on tire au moment de prendre la fuite. Et après avoir regardé tout autour de lui, prenant soudain un air distrait et hautain, par un brusque revirement de toute sa personne, il se tourna vers une affiche dans la lecture de laquelle il s'absorba, en fredonnant un air et en arrangeant la rose mousseuse qui pendait à sa boutonnière. Il sortit de sa poche un calepin sur lequel il eut l'air de prendre en note le titre du spectacle annoncé, tira deux ou trois fois sa montre, abaissa sur ses yeux un canotier de paille noire dont il prolongea le rebord avec sa main mise en visière comme pour voir si quelqu'un n'arrivait pas, fit le geste de mécontentement par lequel on croit faire voir qu'on a assez d'attendre mais qu'on ne fait jamais quand on attend réellement, puis rejetant en arrière son chapeau et laissant voir une brosse coupée ras qui admettait cependant de chaque côté d'assez longues ailes de pigeons ondulées, il exhala le souffle bruyant des personnes qui ont non pas trop chaud, mais le désir de montrer qu'elles ont trop chaud.
Bonjour Philippe Berthier.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Vous êtes l'auteur d'un livre paru aux éditions de Fallois qui s'intitule Charlus. Et il suit un ouvrage précédent qui, lui, était consacré à un autre personnage proustien, Saint-Loup. Dans le texte que l'on vient d'entendre, c'est comme une présentation de ce personnage. Si on ne le connaît pas, si on n'a pas lu la Recherche et qu'on ne sait pas qui est le baron de Charlus, c'est une très bonne présentation parce que dans ce texte, ce qu'on entend, c'est que ce personnage est tout entier, justement, dans un personnage plus que dans une personne. Il est dans l'affectation en permanence.
Oui, c'est un personnage de... C'est une persona au sens latin, c'est-à-dire un masque de théâtre. Je dis d'ailleurs que c'est peut-être la plus grande star de la Recherche du temps perdu. Sa vie est continuellement mise en scène par lui-même et c'est une sorte de vedette absolue du Faubourg Saint-Germain et dans tout le personnel, dans toute la distribution dans la Recherche du temps perdu qui est si nombreuse et si riche, il se détache avec un relief absolument saisissant au point que c'est peut-être lui dont on se souvient davantage une fois qu'on arrive au bout de cet immense voyage de littérature. Qu'est-ce qui se détache inoubliable? C'est le baron de Charlus.
Mais tous les personnages dépeints par Proust sont à la fois très subtils et très caricaturaux. C'est là le génie de Proust. Charlus combine ces deux aspects, mais il est celui peut-être qui en joue le plus.
Absolument. D'ailleurs, le terme caricature, Proust ne le répudiait absolument pas. Il l'a employé lui-même pour qualifier son personnage. C'est une caricature de l'homosexuel. Ce qui est d'ailleurs explique que certains l'ont très mal reçu. Par exemple, Gide a été absolument scandalisé de l'image que Proust a proposée à travers le baron de Charlus de ce qu'il appelait lui son uranisme. Et il en a voulu à Proust qui a dû se justifier. Et c'est ce qui explique aussi, à contrario, que certains hétérosexuels comme Jacques Rivière, par exemple, ont été soulagés de voir comment Proust présentait cette figure emblématique du vice. J'emploie le terme de vice, évidemment sans aucune connotation morale, parce qu'il arrive très souvent aussi sous la plume de Proust. Et on a une lettre assez drôle, involontairement, de Jacques Rivière disant à Proust « Ah, cher ami, comme je suis soulagé que vous ayez ridiculisé l'homosexualité. » Je ne sais pas à quoi il s'attendait, mais il l'a lu comme une sorte de charge satirique sur les homosexuels. Alors, de la part d'un homosexuel comme Proust, ça pose évidemment d'énormes questions. Est-ce que, à travers Charlus, Proust aurait voulu se moquer de la grande folk outrancière et caricaturale, telle que certains stéréotypes véhiculés par les hétérosexuels le répandent? Alors, c'est très complexe, parce que le personnage du baron est à la fois d'une infinie subtilité, comme vous venez de le dire. C'est un personnage tout en détails contradictoire, parce que je crois que la racine vraiment de son être, c'est une contradiction non surmontée, non maîtrisée, et qui l'oblige à toutes sortes de contorsions dans ses comportements physiques et ses attitudes sociales, qui font qu'il est largement insituable, indécidable, et que tout le monde a son Charlus, et que tout est vrai et tout est faux. Il est impossible à étiqueter et à coaguler dans une définition univoque.
C'est pourquoi la charge contre l'homosexualité dont aurait fait preuve Proust dans ce texte, qu'on soit d'accord avec cette thèse ou non, est finalement assez secondaire, puisque même le personnage du baron de Charlus, dont on découvrira, dont le narrateur découvrira l'homosexualité dans un second, voire troisième temps, hein, ça fait partie du mystère qu'il essaie d'élucider, ce personnage ne se réduit pas à cette question-là. Au contraire, c'est pourquoi le thème de la virilité s'applique parfaitement à lui, c'est qu'il est dans ce jeu sans cesse entre les apparats masculins et les apparats féminins.
Complètement. Et il y a donc là une sorte de négociation permanente en lui entre une volonté d'afficher une virilité. Il y a un côté presque surmâle chez le baron de Charlus qui professe une détestation totale pour tout signe d'effémination, qui s'habille volontairement de couleurs neutres et discrètes, répudie toute touche de couleur qui pourrait laisser supposer en lui je ne sais quel penchant à une frivolité féminine, etc., qui peut pas supporter qu'un homme porte des bijoux alors que lui-même en offrira à celui dont il souhaiterait tant qu'il soit son amant, le violoniste Morel. Donc il y a cette affectation de sportivité aussi. C'est un homme qui vit en plein air, qui n'est pas du tout une fleur de salon. Pas seulement, il est aussi une orchidée de salon, mais il est aussi un homme capable de faire d'immenses randonnées à pied, de se jeter dans des torrents glacés, enfin, qui sculpte son corps, même si sur ce plan-là, là aussi, il subit beaucoup de défaites, parce qu'au fil de la recherche, son ventre ne cesse de devenir plus proéminent, et à la fin de sa vie, le baron sera, sinon obèse, du moins très ventripotent, donc il aura été vaincu sur ce plan-là aussi. Donc c'est assez à la fois comique, et parce que c'est un grand personnage comique, il faut le dire. Aujourd'hui, le comique de Proust est quelque chose qui est tout à fait, après avoir été beaucoup négligé ou minoré, c'est quelque chose qui, dans la critique, est très volontiers souligné, qui crève les yeux. Dans l'hilarité qui si souvent parcourt la recherche du temps perdu, le baron de Charlus est un agent absolument essentiel. Et en même temps, c'est toujours en même temps, je m'excuse, ce syntagme qui est à la mode sur d'autres terrains, s'impose pour lui. En même temps, c'est un personnage pathétique, puisque à la fois c'est une grande ganache spectaculaire, et en même temps c'est un pauvre roi lire qui termine dans la solitude et sur un tableau très pitoyable de lui-même. Donc il est impossible, encore une fois, d'enfermer ce personnage dans une formule. C'est un un homme superlatif selon sa volonté, et en réalité, dans son corps, tout le trahit, et dans son comportement, quand on sait le déchiffrer, mais il faut être sémioticien.
C'est ça.
C'est-à-dire que c'est vraiment, je cite, je crois, une formule de Gilles Deleuze dans son livre sur Proust, Charlus est une Égypte. C'est une formule magnifique, c'est vrai.
Citons la formule jusqu'au bout. Charlus est une Égypte dont le narrateur voudrait déchiffrer les hiéroglyphes.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ce que le narrateur fait au long du roman de Proust. Peu à peu, il apprend à décrypter des signes qui d'abord l'avaient abusé, qu'il avait pris d'abord littéralement, sans pouvoir les comprendre. Il n'avait pas le sésame herméneutique pour entrer dans leur signification profonde. Et il adhère à l'image que l'on a volontiers du baron dans la société, c'est-à-dire un grand séducteur de femmes. Son neveu Saint-Loup considère que c'est un immense cavaleur, comme il le dit, et donc c'est un homme, un bourreau des cœurs féminins. Et c'est seulement peu à peu que Charlus va avouer aux yeux de plus en plus perspicaces du narrateur ce qu'il fait tant d'efforts pour cacher. Il dresse évidemment une muraille de censure pour que personne n'ait accès à la vérité secrète, à sa crypte vraiment enfouie, et peu à peu, ses défenses vont sombrer, et finalement, le texte de Proust nous le montrera sans masque ni écran, dans sa vérité la plus crue, parce que là, il faut dire quand même que dans le volume de Sodome et Gomorre, il y a des évocations dont on peut dire que avant Proust, vraiment, la littérature ne les avait jamais tenter.
On va les entendre dans un instant parce que ce sont des pages absolument mémorables, en effet, et elles ont été lues pour vous aujourd'hui par Jacques Gamblin. Avant cela, vous parliez du comique inhérent au baron de Charlus, le comique et le tragique, le fait que le personnage oscillait sans cesse de l'un à l'autre. C'est la thèse que défend André Mauroy, que je vous propose d'écouter tout de suite, qui parle du comique, mais aussi du monstrueux chez Charlus.
Il nous faut remarquer combien est mal délimitée la frontière entre le comique et le monstrueux. Et c'est un fait important, que dans toutes les réellement grandes œuvres, il y a presque toujours un ou plusieurs monstres, et que ces personnages, qui sont à la fois surhumains et humains, sont ceux qui dominent l'œuvre et qui lui donnent une incomparable unité. Tel est le cas de Charlus dans Proust. Le monstre ouvre des fenêtres sur de mystérieuses profondeurs parce que nous ne pouvons pas le comprendre entièrement. Il nous dépasse, ne fût-ce qu'en horreur, et pourtant il y a en lui des éléments qui sont aussi en nous. En d'autres circonstances, nous aurions pu devenir ce qu'il est, et cette idée qui demeure en nous inexprimée nous effraie et nous fascine. Les monstres donnent au roman des dessous inexplorés qui vont au sublime. Le grand comique est toujours un peu terrifiant, et Proust est ici égal au plus grand.
Vous employez vous-même, Philippe Berthier, l'expression de monstre sacré, c'est le titre d'un de vos chapitres en parlant de Charlus.
Oui, parce que je crois que c'est la théâtralité du personnage est maximale. C'est un être toujours en représentation devant lui-même et devant les autres. Je trouve que l'intervention d'André Mauroy est absolument...
écrivain et biographe de Proust.
Oui, est absolument remarquable. Et on pourrait saisir là une grande différence avec ce qui a été le modèle littéraire de Charlus, même si Proust en a fait tout autre chose, à savoir le Vautrin de Balzac dans Illusion perdue et Splendeur et misère des courtisanes. Le Vautrin de Balzac, dont je rappelle qu'il a pris la place d'un Carlos Herrera, donc Carlos Charlus. Il y a un salut là de Proust à Balzac, et Proust insiste énormément sur le véritable culte, la véritable religion que le baron professe pour Balzac. Or, Vautrin chez Balzac n'est jamais ridicule, mais pas un instant, personne, aucun lecteur ne songe à rire une seconde de Vautrin, qui est uniquement terrifiant par son emprise totale sur Lucien de Rubempré, tandis que on ne peut pas s'empêcher de rire et de bon cœur devant les tirades extravagantes du baron de Charlus, où Proust s'amuse énormément de créer un langage complètement artificiel et coupé de toute réalité, tellement le personnage est emporté par l'idée qu'il se fait de lui-même et d'un être pratiquement au-dessus des normes qui régissent la vie du commun des mortels.
D'ailleurs, dans le texte qui a ouvert cette émission, on aura remarqué l'importance accordée à la description du visage et du regard. C'est finalement, puisque le narrateur essaie de scruter ce visage qui lui paraît, qui lui est étranger, mais qui l'interpelle sans qu'il sache pourquoi. Il y a de nombreux termes qui viennent qualifier les yeux dilatés, le regard, un air distrait et hautain. Et à chaque fois que le baron de Charlus va revenir, c'est son visage et son regard qui vont être décrits en premier.
Alors, son regard est, il y a une sorte d'érection ophtalmologique, si on peut dire. Il fait l'amour à distance avec ses yeux. Son regard est sorti de ses orbites, est une sorte de projectile lancé vers la proie potentielle. Ça se reproduit, c'est une sorte de réflexe pavlovien chez lui. Chaque fois qu'il voit dans la rue ou n'importe où un jeune homme susceptible de polariser focaliser son désir, il y a le même regard qui est une sorte d'agression, de rapt amoureux, de prise de possession à distance. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas me pousser tellement pour que je soutienne que finalement c'est peut-être la seule manière dont le baron en fait l'amour, parce que Proust nous explique que par exemple une manière pour lui de se décharger littéralement de son énergie érotique, c'est de faire des grandes scènes où il laisse libre cours à une rhétorique absolument fulminante. Et
là, vous parlez de Proust ou de Charlus ?
De Charlus, oui. De rhétorique absolument fulminante qui lui sert d'exutoire et qui est une sorte de substitut purement verbal à une activité génitale ou sexuelle dont on n'est pas du tout persuadé qu'elle se réalise.
Le narrateur écrit à propos de Charlus, hein, si l'apparence seule des êtres est peinte devant nous, en revanche, leurs regards inscrivent devant eux, comme les phylactères que portent les saints personnages, leur légende véritable qui permet de les identifier. Et un peu avant, on pouvait lire aussi le visage de Charlus, auquel une légère couche de poudre donnait un peu l'aspect d'un visage de théâtre. Eh bien, monsieur de Charlus avait beau en fermer hermétiquement l'expression, les yeux étaient comme une lézarde, comme une meurtrière que seul il n'avait pas pu boucher.
Ça, c'est sûr. Quelque chose sort quand même et Proust est persuadé qu'on a beau s'épuiser en effort pour chasser, pour refouler le surmoi du corps de Charlus n'aboutit pas et finalement le naturel revient sinon au galop, du moins s'insinue et finit par pulvériser, désintégrer le masque qu'on avait entassé, ce maquillage. Ça fait penser évidemment à ce que Baudelaire a dit pour célébrer le maquillage, hein, faire de soi-même une œuvre d'art. Le baron l'a essayé et c'est surtout une forme de mensonge pour lui. Il est vital que dans le monde qui est le sien, il ne soit pas soupçonné. Il a toujours peur de la police. Hein. Par exemple, quand il est dans la rue, qu'il donne le bras à un ami et qu'il aperçoit le ministre de Belgique, légendaire pour son homophobie, aussitôt, par un réflexe électrique, il enlève son bras parce qu'il a trop peur de donner prise au potinage ou au commérage ou au soupçon qu'il pratique lui-même tellement à l'égard des autres, mais il ne veut pas en être l'objet.
Les choses vont se compliquer quand le narrateur va s'approcher de lui, il va le rencontrer à nouveau dans les salons de Madame de Villeparisis. Il va découvrir que le baron de Charlus, d'ailleurs, est le frère du duc de Guermantes, qui est pour lui un des nombreux rapprochements que fait le narrateur au cours de la recherche et qui, pour lui, est très surprenant, lui fait prendre conscience d'une forme de dilatation du temps et des personnes. Et puis, un jour, le narrateur va rendre visite à Charlus, chez lui, et celui-ci, dans un des longs monologues qui le caractérise, va osciller entre les moments de grande poésie et de grand lyrisme, les moments d'agressivité, et finalement, faire ses avances au narrateur en ces termes, il va dire « Il fait un clair de lune superbe que j'irai regarder au bois après vous avoir reconduit. Comment, vous ne savez pas vous raser? Même un soir où vous dînez en ville, vous gardez quelques poils ?» me dit-il en me prenant le menton entre deux doigts, pour ainsi dire magnétisé, qui après avoir résisté un instant, remontèrent jusqu'à mes oreilles comme les doigts d'un coiffeur. « Ah, ce serait agréable de regarder ce clair de lune bleu au bois avec quelqu'un comme vous !» me dit-il avec une douceur subite et comme involontaire, et puis l'air triste, « car vous êtes gentil tout de même, vous pourriez l'être plus que personne » ajouta-t-il en me touchant paternellement l'épaule. On est dans le côté de Guermantes, ici, Philippe Berthier, ce sont les premiers contacts physiques.
Oui, oui. Et en même temps, entre Charlus et Proust, les contacts, et chez Charlus, les contacts physiques sont équivoques. Naturellement, ils trahissent le désir. Mais en même temps, chez son frère Bazin, par exemple, qui lui est d'une orthodoxie sexuelle parfaite, qui n'est pas le moins du monde homosexuel, il est très caressant, le duc de Guermantes. Mmh. Il caresse la main du docteur Cottard, qui a très peur d'être violé dans la minute qui suit. Il tapote agréablement le col de fourrure du père du narrateur. C'est pas du tout parce qu'il est il est tenté par les hommes, c'est parce qu'il est un Guermantes et que il est tellement persuadé de sa supériorité transcendantale sur le reste de l'humanité qu'il veut montrer justement qu'il ne se sent pas supérieur et que par ce geste de bienveillance physique, il montre qu'il est tellement proche des gens simples qui ne sont pas nés. Donc vous voyez, le même geste peut dans un certain contexte être interprété d'une façon ou d'une autre tout à fait opposée. Est-ce que le contact physique vient du fait que on est attiré physiquement par les gens de son propre sexe ou bien vient parce que des gènes, de l'hérédité en quelque sorte, n'est-ce pas? Et c'est la réponse ne va pas du tout de soi. Donc tous les comportements de Charlus sont ambivalents et on navigue entre des apparences à double visage que nous apprendrons peu à peu à démêler, à déchiffrer. Et finalement, c'est quand le baron est endormi que toutes ces barrières, ces défenses immunitaires, pourrait-on dire, ayant cédé, il se déclare, comme le dit Giraudoux, c'est-à-dire bon, il se montre dans sa nature profonde et alors ça crève les yeux.
Bertine, au fond.
Du narrateur, dit mais c'est, on dirait une femme, mais bien entendu, il y a un côté roman policier, mais c'est bien sûr, je ne l'avais pas pensé d'abord, c'est une femme, et tout s'éclaire, tout se déplie.
Mais quand il dit c'est une femme, est-ce une manière de dire il est homosexuel ou non, c'est vraiment une femme au sens sexuel du terme?
Voilà, c'est une femme dans un corps d'homme, et c'est là évidemment l'origine de la souffrance homosexuelle à laquelle Proust a consacré ses pages vertigineuses. C'est inoubliable qu'on n'a jamais égalé au début de la grande dissertation théorique qui ouvre Sodome et Gomorre.
Quel que fût le point qui put retenir M. de Charlus et le giletier, leur accord semblait conclu et ces inutiles regards n'être que des préludes rituels, pareils aux fêtes qu'on donne avant un mariage décidé. Plus près de la nature encore, on eût dit deux oiseaux. Le mâle et la femelle. Le mâle cherchant à s'avancer, la femelle, Jupien, ne répondant plus par aucun signe à ce manège, mais regardant son nouvel ami sans étonnement, avec une fixité inattentive, jugée sans doute plus troublante et seule utile du moment que le mâle avait fait les premiers pas et se contentant de lisser ses plumes. Enfin, l'indifférence de Jupien ne parut plus lui suffire. De cette certitude d'avoir conquis, à se faire poursuivre et désirer, il n'y avait qu'un pas, et Jupien, se décidant à partir pour son travail, sortit par la porte cochère. Ce ne fut pourtant qu'après avoir retourné deux ou trois fois la tête qu'il s'échappa dans la rue, où le baron, tremblant de perdre sa piste, s'élança vivement pour le rattraper. Au même instant où M. de Charlus avait passé la porte en sifflant comme un gros bourdon, un autre, un vrai, celui-là, entrait dans la cour. Qui sait si ce n'était pas celui attendu depuis si longtemps par l'orchidée et qui venait lui apporter le pollen si rare sans lequel elle resterait vierge. Mais je fus distrait de suivre les ébats de l'insecte, car au bout de quelques minutes, sollicitant davantage mon attention, Jupien revint, suivi par le baron. Celui-ci, décidé à brusquer les choses, demanda du feu au giletier. Les lois de l'hospitalité l'emportèrent sur les règles de la coquetterie. « Entrez, on vous donnera tout ce que vous voudrez, » dit le giletier, sur la figure de qui le dédain fit place à la joie. La porte de la boutique se referma sur eux, et je ne pus plus rien entendre. J'avais perdu de vue le bourdon. Je ne savais pas s'il était l'insecte qu'il fallait à l'orchidée, mais je ne doutais plus, pour un insecte très rare et une fleur captive, de la possibilité miraculeuse de se conjoindre.
Sur les chemins de la philosophie sur France Culture, la tension est croissante. Dans le prochain texte, chers auditeurs, vous entendrez la lanière cloutée d'un martinet avec lequel on fouette le corps de l'amant. C'est dans un instant, mais pour l'instant, justement, Philippe Berthier, alors, dans ce texte, il s'agit d'orchidées, de bourdons, de la danse étrange avec laquelle le bourdon va rejoindre l'orchidée comme métaphore de cette tentative d'accouplement entre le baron de Charlus et Jupien.
Alors, c'est très important, c'est un passage évidemment splendide et qui pose des questions de fond parce que c'est toute la question de la nature ou de l'antinature. On appelait les homosexuels volontiers au XIXe siècle les antiphysiques, avec donc cette qualification reposait sur l'idée que leur mœurs était contre nature, que la nature était hétérosexuelle par définition. Alors, Proust, très en avance sur la question telle qu'on l'envisage aujourd'hui. Je crois que récemment encore est paru un livre qui reprend tout à fait ce que Gide déjà dans les années 20 disait dans son Coridon, disant qu'il y a des insectes homosexuels, tous les animaux comportent une part d'homosexuels dans leurs espèces, donc il n'y a pas, l'homosexualité n'est pas une antinature, elle est aussi dans la nature. Et alors Proust, recourant à des métaphores animales ou végétales, nous montre que, en effet, la pariade du giletier et du baron, même si superficiellement elle peut nous apparaître comme une sorte d'exception absolument monstrueuse, d'anomalie révoltante, obéit en fait secrètement à une loi, certes sans doute minoritaire, mais indiscutable, et qu'elle accomplit mystérieusement un vœu paradoxal de la nature dans son apparente anti-nature. Ce qui évidemment...
C'est-à-dire, quel serait ce vœu?
Eh bien, ce vœu, c'est que certains se rencontrent tout en étant du même sexe. Donc, c'est-à-dire en dehors de tout canon de normalité, de visée reproductrice, etc.
Et c'est-à-dire que le bourdon ne va pas forcément butiner l'orchidée pour se reproduire, mais oui, qu'il peut aller butiner un autre bourdon.
Voilà, absolument. Et c'est l'idée qu'il y a une beauté, d'ailleurs, Proust le dit explicitement, il parle d'ailleurs de miracle, vous l'avez lu tout à l'heure, on l'a entendu, il y a une certaine de beauté dans cette rencontre, comme si l'extraordinaire écheveau de hasard et de nécessité qui avait amené deux êtres qui n'auraient jamais dû, dont la trajectoire n'aurait jamais dû normalement s'intersecter, à se trouver, à se retrouver, à se reconnaître, il y a quelque chose de beau qu'il faut saluer, comme une sorte de, j'irais peut-être, j'espère ne pas choquer, en disant peut-être quelque chose même de providentiel dans cette rencontre.
Entre Charlus et Jupien.
Voilà, absolument. Ils étaient faits l'un pour l'autre de toute éternité. Alors évidemment...
Rappelez-nous peut-être comment ils se rencontrent et qui est Jupien, parce que c'est intéressant.
Oui, alors Jupien est un ancien giletier devenu petit employé de bureau, hein, qui habite dans la cour où, de l'hôtel où réside Madame de Villeparisis, la tante du baron. Et il a fallu un hasard tout à fait exceptionnel pour qu'ils se rencontrent, parce que l'horaire faisait que ce jour-là, bon, il n'aurait pas dû être là en même temps, mais il y avait quelque chose, une force inconnue, un dessein supérieur qu'on ne saurait nommer peut-être que de providence, qui les amenait l'un vers l'autre. Et on peut rappeler quand même que Jupien restera indéfectiblement fidèle à son baron et finalement sera sa sœur de charité, le poussera dans ce fauteuil roulant quand le baron sera devenu infirme et gâteux, et offrant une image sans doute un peu pitoyable, mais aussi peut-être sublime et émouvante de ce qu'il faut bien appeler un amour aussi stupéfiant et inattendu que cela puisse paraître, sans pas évoquer évidemment les innombrables infidélités de part et d'autre des deux partenaires. Donc Proust, là, pousse vraiment, donne un coup de sonde qui va vraiment très 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 loin. Alors bien sûr, on peut juger que tout ça est vécu sur un mode terriblement dégradé. Si on pense à la phrase de Stendhal, il faut imaginer l'Apollon du Belvédère dans les bras de la Vénus de Médicis. Bon, c'est ça l'image de l'amour idéal. Alors évidemment, entre des gens de cet âge, des gens qui ne sont pas des bergers d'Arcadie, qui ne sont pas des éphèbes grecs, bon, qui sont des êtres des êtres âgés ou mûrs, au physique ordinaire, voire ingrat, On peut s'en moquer, évidemment, dire « mon Dieu, que cela est donc triste et dérisoire ». Et d'autant plus que Proust ne ménage pas la certaine trivialité délibérée. Il insiste sur les bruits de plomberie, après les sur les ablutions très vulgaires après la passe. Et donc il ne cherche pas du tout à idéaliser à tout craint cette rencontre. Donc je crois que ça, la grandeur, le génie de Proust, c'est de la montrer dans toutes ses dimensions, à la fois extrêmement banale, voire vulgaire, et en même temps ayant une portée qui dépasse infiniment celle de quelques gestes vite expédiés pour poser des questions existentielles, oui, vraiment philosophiques.
Bah, d'ailleurs, les textes qu'on a entendus, avec l'image du bourdon qui vient butiner l'orchidée, ou pas, justement, qui va butiner un autre bourdon, seraient inspirés directement de Schopenhauer. Dans ces quelques lignes sur l'homosexualité, je les cite, il dit « Ce sentiment instinctif de la beauté qui dirige son choix en vue de la satisfaction sexuelle, s'égare s'il dégénère en penchant à la pédérastie. Ce cas est comparable à celui de la mouche bleue, qui au lieu de déposer ses œufs, comme le veut la nature, sur de la viande en décomposition, les place dans la fleur de l'arôme, Dracunduculus, égaré par l'odeur cadavérique de cette dernière. »
Oui, alors même ce qui est repoussant, rebutant, eh bien, se transforme en quelque chose d'idéal et un appel vers...
C'est la rencontre du pire et du vomi, du dégoûtant avec le plus sublime.
Avec le plus sublime, et c'est absolument indissociable. Mmh. Et je crois que là, vraiment, Proust va très très loin. Hein, et que, encore une fois, je pense que tout ce qu'on a pu entasser comme théorie sur l'homosexualité depuis... n'apporte pas tellement d'avantages. Et on sent, me semble-t-il, j'aimerais ajouter cela, la tendresse de Proust pour ses personnages, pour ses frères. Dieu sait qu'il ne ménage pas les homosexuels, il en illustre tous les travers, et en même temps, il en est lui aussi. Et donc, il le sait bien, et il mesure aussi tout ce qu'ils apportent. D'ailleurs, il dit à un moment, si on essaie de tenir les deux plateaux de la balance, de faire une sorte de bilan, qu'est-ce que l'homosexualité a en moins, qu'est-ce qu'elle a en plus par rapport à l'hétérosexualité, dit finalement on arrive à une somme nulle, l'homosexuel est bavard, il est indiscret, il est superficiel, il est c'est une commère, etc. Et en même temps il est infiniment plus sensible, le fait que justement qu'il est une dissonance, il vit pas seulement dans la dissonance, mais tout son être n'est que dissonance et recherche d'un équilibre instable, il claudique, il est voué à claudiquer perpétuellement entre lui-même et lui-même. La souffrance qui est inévitablement son lot, surtout dans le monde dans lequel il vit où l'homosexualité n'est pas tolérée, eh bien l'amène à découvrir en lui des profondeurs insoupçonnées de sensibilité et d'amour, ce qu'il faut bien appeler d'amour. Donc ça va beaucoup plus loin que le désir, le réflexe purement sexuel de ce jeu. Il y a un côté mécanique chez le baron de Charlus qui ne peut pas avoir un petit télégraphiste, un groom, un laitier, etc., sans immédiatement un chauffeur de voiture, sans immédiatement tenter sa chance et aller à la pêche. Mais ce côté mécanique de la pulsion est transcendé, je crois véritablement, par une sorte de désir total d'accomplissement, d'épanouissement, qu'il essaiera de vivre avec Morel, justement.
Et ça sera le violoniste.
Avec le violoniste, un jeune homme vénal, qui ne l'aime absolument pas, qui l'exploitera de la manière la plus cynique, et dont le baron, follement épris, sera totalement victime. Et là, le baron prend une véritable grandeur, parce qu'il accède véritablement à ce statut splendide des grandes héroïnes d'opéra, des grandes abandonnées. Le baron de Charlus devient Didon, devient Armide, devient Ariane, etc. Donc il entre dans les grands emplois d'opéra dont il a plein la tête, hein. Dans les grands emplois de la littérature, il est la princesse de Cadignan, il est la femme abandonnée, enfin il est évidemment dans tout le répertoire, et là on n'a plus envie de se moquer de lui, il faut bien dire. On peut dire pauvre niais, il a été berné par un jeune freluquet qui en a fait ce qu'il a voulu, mais La victime est tellement plus belle dans son désespoir et dans sa solitude que son bourreau.
Alors il y a cette vision esthétique, littéraire, philosophique, quasiment métaphysique de ce personnage. Vous en parlez très bien, Philippe Berthier, notamment dans votre livre sur Charlus. Mais il y a aussi la description beaucoup plus physique, triviale. L'extrait que j'ai lu de Schopenhauer ancrait la tonalité dans quelque chose de plus organique, au sens parfois dégoûtant du terme. Si on avance dans la recherche du temps perdu jusqu'au temps retrouvé, on assiste à une scène où, pour le coup, l'attouchement n'est pas simplement un effleurement du bout du doigt du menton du narrateur qui a quelques poils qui restent, mais quelque chose de très violent, de très physique. On est vraiment en pleine scène de sadomasochisme. Écoutez comment le narrateur la raconte, puisque le narrateur met en scène ce à quoi il assiste, y compris dans le roman, car c'est grâce à un œil de bœuf qu'il va pouvoir visualiser cette scène de voyeurisme de son côté, de sadomasochisme de l'autre.
Tout à coup, d'une chambre qui était isolée au bout d'un couloir, me semblèrent venir des plaintes étouffées. Je marchais vivement dans cette direction et appliquai mon oreille à la porte. « Je vous en supplie, grâce, grâce, pitié, détachez-moi, ne me frappez pas si fort !» disait une voix. « Je vous baise les pieds, je m'humilie, je ne recommencerai pas, ayez pitié !»« Non, crapule !» répondit une autre voix. « Et puisque tu gueules et que tu te traînes à genoux, on va t'attacher sur le lit, pas de pitié !» Et j'entendis le bruit du claquement d'un martinet, probablement aiguisé de clous, car il fut suivi de cris de douleur. Alors, je m'aperçus qu'il y avait dans cette chambre un œil de bœuf latéral, dont on avait oublié de tirer le rideau. Cheminant à pas de loup dans l'ombre, je me glissai jusqu'à cet œil de bœuf, et là, enchaîné sur un lit, comme Prométhée sur son rocher, recevant les coups d'un martinet, en effet planté de clous, que lui infligeait Maurice, je vis, déjà tout en sang et couvert d'ecchymoses qui prouvaient que le supplice n'avait pas lieu pour la première fois, je vis devant moi Monsieur de Charlus. Tout à coup, la porte s'ouvrit et quelqu'un entra, qui heureusement ne me vit pas. C'était Jupien. Il s'approcha du baron, avec un air de respect et un sourire d'intelligence. « Eh bien, vous n'avez pas besoin de moi ?» Le baron pria Jupien de faire sortir un moment Maurice. Jupien le mit dehors avec la plus grande désinvolture. « On ne peut pas nous entendre, » dit le baron à Jupien, qui lui affirma que non.
Tout l'intérêt de cette scène, évidemment, est qu'elle se passe dans un silence et dans une transgression absolument jouissive, hein, Philippe Berthier, à laquelle le narrateur assiste, à la fois d'abord malgré lui et ensuite de manière tout à fait consentante.
Mais évidemment, mais alors cette scène est à double fond naturellement, parce que au premier abord, et si on en juge par cet extrait qu'on vient d'entendre, on est absolument saisi, médusé, tétanisé par l'abjection dans laquelle le baron se vautre volontairement. Il a besoin de souffrir pour être excité, et en même, comme tous les libertins blasés et qui ont besoin de condiments toujours plus incendiaires, mais en même temps on comprend très vite que tout ça n'est que du chiqué. Tout ça est truqué de A à Z. Et la métaphore avec Prométhée ne peut être envisagée qu'avec un grand éclat de rire. Prométhée est un héros qui s'ouvre, dont un vautour dévore le foie parce qu'il a voulu apporter le feu aux hommes.
Et ici, il dit qu'il est enchaîné sur un lit comme Prométhée sur son rocher, recevant les coups d'un martinet planté de clous.
On est dans un hôtel de passe de Paris. Enfin bon, il ne faut quand même pas pousser le boucher trop loin. Et donc, on ne peut pas croire un instant à la grandeur. Enfin, c'est pas le châtiment d'un héros qui aurait voulu émanciper qui que ce soit. C'est simplement une sorte de triste porno par lequel un être à la libido flageolante et usé essaie de se requinquer quelque peu avec des partenaires stipendiés qui sont de bons garçons, qui ne feraient pas de mal à une mouche et qui, d'ailleurs, n'y croient pas eux-mêmes, puisque le baron Caron après va se plaindra à Jupien, qui est le patron de cette maison de pâtes, qui n'y croit pas, qui ne met pas assez de cœur à l'ouvrage, que véritablement il pourrait se dépenser un peu plus. Donc on voit que c'est un scénario, c'est un fantasme. Le baron de Charlus se fait son cinéma et on essaie tout à fait artificiellement de l'exciter en lui disant, vous savez, monsieur le baron, un tel qui vient vous a fouetté, c'est un assassin, il a tué sa concierge. Alors aussitôt ça intéresse le baron, qui était moustillé, affriolé, ah oui, un assassin, être battu par un assassin, c'est quelque chose évidemment qui peut-être réveiller ses ardeurs faiblissantes. Mais on sent très bien que c'est un grand morceau de comédie. Il y a d'ailleurs dans cet hôtel, enfin, on ne peut pas ne pas penser à la biche ou à Phédo. Mmh. C'est dans cet hôtel où tout le monde se cache de tout le monde, où les gens ne savent pas que dans la chambre d'à côté, il y a des gens qui fréquentent, qui côtoient dans les salons du noble faubourg et qui viennent là satisfaire des libidos clandestines. Tout ça est véritablement bouffon. Il y a des aspects de bouffonnerie et en même temps, indiscutablement, il y a aussi un aspect infernal. Ça me fait penser à la formule de Barbey d'Aurevilly dans Les Diaboliques, où il parlait de montrer l'enfer à travers un soupirail. Là, c'est un œil de bœuf. Le narrateur qui est voyeur dans l'âme se régale, évidemment. Mais est-ce vraiment l'enfer ? Bon, c'est un enfer fabriqué, c'est un enfer.
Mais qui a une vertu, disons, éducative pour le narrateur. Parce que ce qui est très intéressant dans cette scène, du point de vue du roman lui-même, c'est la façon qu'a le narrateur non seulement de la raconter, et les conclusions qu'il en tire, c'est la façon qu'a cette histoire de l'accompagner tout au long de son apprentissage. Et il dit à cette occasion cette phrase géniale, alors qu'il arrive, parce qu'il entend les cris, poussés par Charlus. Et il dit, j'ai compris ce jour-là que la seule chose qui fait autant de bruit que la douleur, c'est le plaisir.
Le plaisir, oui, absolument. Et donc, oui, lui-même, alors, aperçoit cela, évidemment, de l'extérieur, comme les mœurs incompréhensibles pour lui, qui aurait cours sur un continent inconnu. C'est une plongée pour lui dans quelque chose dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Et la conclusion qu'il en tire, elle est très positive pour le baron. Il a pitié du baron, dont il a d'ailleurs continuellement souligné l'essentielle bonté. Le baron n'est pas un homme pervers, pas du tout, n'est-ce pas ? Bon, on pourrait dire quelle perversion dans ses comportements, mais pas du tout. C'est simplement la tentative peut-être ultime, désespérée, de quelqu'un qui est acculé, qui est dans ses derniers retranchements, pour essayer d'arracher encore un peu de plaisir à une nature fuyante. Et je crois que ça inspire plutôt, en effet, non pas, d'ailleurs je veux pas employer le terme de commisération qui semble condescendant, mais disons qu'on peut réfléchir sur certains doubles fonds de la nature humaine et surtout sur, évidemment, l'extraordinaire distance entre le patent et le latent. C'est-à-dire ce qui est montré. Qui pourrait croire que cet être tellement extraordinairement puissant qu'est le baron de Charlus en vienne à une pareille dégradation non seulement consenti, mais recherché. C'est l'endroit et l'envers d'un même être qui sont absolument indissociables, solidaires, organiquement pétris l'un de l'autre. C'est insécable. On ne peut pas choisir chez Charlus ceci et éliminer cela. Il faut tout prendre parce qu'il faut tout prendre dans l'humain. Son adresse, son ubac, côté soleil, côté ombre, côté nuit, côté jour éclatant, côté Versailles, puisque le baron de Charlus se croit encore toujours évidemment à Versailles, et un des principaux ornements de la cour du grand roi. Et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de conclusion morale.
Pas morale, mais vous l'avez dit vous-même, si ce n'est cette découverte selon laquelle le baron de Charlus est une femme.
Est une femme, ça.
Alors là, c'est pas simplement qu'il est homosexuel, qu'il désire les garçons, ou qu'il aime s'adonner à des pratiques sexuelles violentes. C'est qu'en fait, c'est non pas tellement sa sexualité que son propre sexe qui résout l'énigme. Je vous propose qu'on écoute un dernier texte ensemble, où, pour le coup, le mot est prononcé. Le baron de Charlus est qualifié comme femme et décrit cette aptitude à se sentir femme. Écoutez.
On aurait cru voir s'avancer Madame de Marsante, tant ressortait à ce moment la femme qu'une erreur de la nature avait mise dans le corps de Monsieur de Charlus. Certes, cette erreur, le baron avait durement peiné pour la dissimuler et prendre une apparence masculine. mais à peine y était-il parvenu que, ayant pendant le même temps gardé les mêmes goûts, cette habitude de sentir en femme lui donnait une nouvelle apparence féminine, née celle-là non de l'hérédité, mais de la vie individuelle. Et comme il arrivait peu à peu à penser même les choses sociales au féminin, et cela sans s'en apercevoir, car ce n'était pas qu'à force de mentir aux autres, mais aussi de se mentir à soi-même, qu'on cesse de s'apercevoir qu'on ment, bien qu'il eût demandé à son corps de rendre manifeste, au moment où il entrait chez les Verdurin, toute la courtoisie d'un grand seigneur, ce corps qui avait bien compris ce que M. de Charlus avait cessé d'entendre, déploya, au point que le baron eût mérité l'épithète de ladylike, toutes les séductions d'une grande dame. Aurait-ce peut-on séparer entièrement l'aspect de M. de Charlus du fait que, les fils n'ayant pas toujours la ressemblance paternelle, même sans être invertis et en recherchant les femmes, ils consomment dans leur visage la profanation de leur mère? Mais laissons ici ce qui mériterait un chapitre à part, les mères profanées.
Ce qui donne très envie d'en savoir plus et de lire la partie de la recherche qui parle justement de ces mères profanées. Alors, quel texte ici, hein, Philippe Berthier, avec cette expression, cette habitude de sentir en femme qui lui donnait une nouvelle apparence féminine, née celle-là, non de l'hérédité, mais de la vie individuelle.
Mais oui, parce que un des travers des homosexuels qu'on leur prête, c'est de mettre tout au féminin, n'est-ce pas? Une telle, à celle-là, etc., etc. Le baron, d'ailleurs, n'y manque pas dans ses conversations avec ses pareils, mais ça va beaucoup plus loin qu'une espèce de tic de langage et de mots de passe entre initiés, entre gens de la même confrérie. Ça évoque, effectivement, une sorte de sexuation différente, d'intériorité vécue au féminin. Tout ça dans un appareil anatomique masculin. Et donc, il y a une sorte de féminité intérieure, opiniâtre, têtue, débordante, malgré toutes les précautions qu'on prend pour la contrôler. Et monsieur de Charlus en est l'exemple absolument parfait. C'est que ça explique aussi que, beaucoup des gens qu'il connaît ne remontent pas à la source, mais c'est la source de son goût. Alors là, on tombe aussi peut-être dans un certain stéréotype. L'homosexuel, c'est celui qui a un goût féminin pour les étoffes, pour les chiffons. C'est un artiste. Il a tous les talents. Monsieur de Charlus est l'arbitre des élégances. Il est continuellement entouré de femmes. Il conseille les femmes pour leur manière de s'habiller. Peut-être parce que lui-même rêve de se travestir en femme. Proust ne nous le montre jamais travesti en femme. Il nous montre au contraire une sorte de rigueur presque janséniste dans la manière...
Une forme de virilité, justement.
Voilà, bien entendu. Donc, il faut qu'il insiste sur l'opposé pour garder, pour tenir en respect l'espèce de tsunami de féminité qui pourrait l'emporter s'il lui donnait libre cours. Donc, il y a une lutte permanente, évidemment, entre féminité et virilité, où les signes ne cessent de s'échanger, de se renverser, et ce qui conduit à l'impossibilité de porter un jugement définitif et stabilisé sur le personnage de Charlus, qui évolue toujours entre deux pôles. Et une fois que, d'ailleurs, le narrateur, une fois qu'il a compris, n'est-ce pas, qu'il a la clé de ce texte en perpétuel changement et métamorphose, évidemment, nous donne à la fois, il jouit, comme nous-mêmes, d'ailleurs, lecteurs, il est évidemment à l'intérieur même de la fiction, le représentant de chacun de nous, lecteurs, puisqu'il nous explique comment il jouit de la distance entre ce qui est exhibé et ce qui est, en fait, caché, traduit ou trahi par son contraire apparent. Donc là, il y a une jouissance spécifique qui est celle, en effet, du lecteur par narrateur interposé, à qui on ne la baille plus belle et qui a pénétré dans l'énigme, au cœur de l'énigme, et qui est capable, à son tour, de déchiffrer. Tout se déplie, en effet, tout se comprend. Et évidemment, c'est une sorte de joie de la lecture, d'arriver arriver à fracasser l'apparence énigmatique du monde pour pénétrer justement au cœur caché, secret, interdit, celui qu'on avait fait tant d'efforts pour dissimuler et qui s'avoue finalement en gloire.
Alors cette femme qu'une erreur de la nature avait mise dans le corps de l'homme qu'est Monsieur de Charlus, est-ce qu'on peut parler de troisième sexe? Ce serait un autre genre?
Oui, ben c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est une forme d'androgyna, je ne sais pas. En tout cas, je crois que l'idée de dissonance peut-être est assez intéressante et productive, n'est-ce pas? Nous avons en effet une enveloppe qui extérieurement affiche tous les symptômes d'un genre. Et en réalité, quand on a pénétré à l'intérieur de cette enveloppe, on s'aperçoit qu'elle est faite là peut-être pour cacher, pour donner le change à une nature qui va exactement à l'opposé. Et à ce moment-là, tout est aversé au dossier de ce penchant inavoué et inavouable. Et alors, plus le baron en rajoute et donne dans la surenchère dans sa revendication de virilité à tout craint, la manière dont, par exemple, même pendant la guerre, il admire les soldats allemands qui sont des hommes, des vrais, etc., par rapport aux soldats français qui n'ont pas de tenue, de discipline et qui sont des femmelettes, tout ne fait que confirmer ce qu'il voudrait, au contraire, infirmer.
Le troisième sexe, en tout cas, c'est le titre de la chanson d'Indochine. D'avoir dit oui aujourd'hui pour venir parler à ce micro du Baron de Charlus de Marcel Proust. Je renvoie à la lecture de votre livre Charlus aux éditions de Fallois. Marcel Proust à Indochine, vous êtes sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Vous revenez aujourd'hui sur la disparition d'Hubert de Givenchy.
Oui, lundi on apprenait la disparition du couturier samedi 10 mars. Dernier grand témoin et acteur de l'âge d'or de la haute couture, inventeur de la fameuse petite robe noire immortalisée par Audrey Hepburn, un des premiers à avoir créé une marque de prêt-à-porter, homme trop discret dans notre époque hyper communicante. Voici ce que vous avez pu lire dans les hommages rendus à Givenchy dans Le Monde, Le Figaro, L'Obs, L'Express ou encore Vogue. Mais vous avez aussi dû relever un mot, un beau et grand mot persistant pour évoquer le couturier, mais si peu utilisé aujourd'hui, ce mot c'est celui d'élégance. Alors, qu'est-ce que l'élégance? Ce terme peu employé aurait-il seulement disparu de nos vocabulaires ou les occasions de l'utiliser seraient-elles devenues rares? Être élégant aujourd'hui a-t-il un sens? Est-il même encore possible? Question 2. Mots d'époque ou de caractère, l'occasion nous est donnée de le demander et de questionner l'élégance.
La compagnie française du prêt-à-porter a présenté dans ses salons boulevard de la Madeleine le Givenchy Université. Vous connaissez naturellement Hubert de Givenchy, Vous savez qui il est et peut-être êtes-vous étonné de m'entendre prononcer ce nom nouveau pour nous, Givenchy Université. Eh bien pourtant, ça n'est pas étonnant. Hubert de Givenchy a décidé de mettre ses robes à la portée de la bourse de toutes. Et je vais tout de suite vous demander, question extrêmement matérielle, Hubert de Givenchy, entre quel et quel prix pourrons-nous nous habiller à Givenchy Université ?
Alors nous entendrons tout à l'heure la voix de Givenchy dans la suite de cette archive de 1955, mais déjà il faut s'arrêter sur cette drôle d'expression et d'entreprise, la Givenchy Université. Car si Givenchy incarnait l'élégance, la Givenchy Université peut signifier que l'élégance s'apprend, qu'elle est à la portée de toutes, qu'elle est accessible. Or est-ce vraiment le sens de l'élégance ? À l'origine, c'est-à-dire en latin, l'élégance est celui qui sait choisir. Étymologie fort instructive, puisqu'on peut tout de suite se demander mais qui sait choisir ? Comment savoir choisir ? Le choix est-il une question de connaissance ? Être élégant, c'est-à-dire savoir choisir, qu'il s'agisse d'habits, de tons ou de goûts, pourrait-il s'acquérir ? Eh bien, c'est ce qu'on peut croire avec donc cette Givenchy Université, mais aussi avec le seul à avoir parlé d'élégance, à défaut d'en avoir fait des vêtements, et il a tout d'un philosophe, c'est Balzac. Balzac, à qui l'on doit en effet un traité de la vie élégante, commande du journal La Mode en 1830, soit l'époque où on faisait des physiologies, des études de mœurs et des analytiques de la vie sociale, et où on nous donnait des conseils sous forme de théories.
J'ai pensé à quatre formules pour pouvoir habiller une femme pour l'été prochain. Une formule qui, la première, commence avec des blouses et des jupes, aussi bien des blouses de popeline avec des jupes de flanelle ou de coton, des robes de petit lainage que l'on met le matin, des robes de coton et des robes de cocktail courtes du soir, des robes qu'on appelle robes de soir courtes à danser.
Et des ensembles, est-ce que nous en avons ?
Oui, en effet, il y a des ensembles qui sont souvent des robes droites, simples, avec des paletots trois quarts.
L'élégance peut-elle s'acquérir ? Eh bien oui, nous dit Givenchy, et en quatre formules. Mais être élégant et savoir choisir, puisque c'est, je le rappelle, l'étymologie du mot, est-il une question d'argent, ou du moins d'acquisition, de possession et de propriété ? Et est-ce quelque chose qui s'acquiert plus qu'elle ne se développe ? Autrement dit, l'élégance, est-ce une question d'être, naturel ou cultivé, ou d'avoir une qualité que l'on s'adjoint ? Eh bien, dans son fameux traité de la vie élégante, Balzac distingue trois types de vie. La vie occupée, c'est-à-dire où on travaille, la vie d'artiste, c'est-à-dire où on pense, et la vie élégante, c'est-à-dire la vie où on ne fait rien. Énorme avancée ici avec Balzac sur l'élégance. Si l'élégant est celui ou celle qui sait choisir, l'élégant est aussi celui ou celle qui ne fait rien. Mais comment choisir tout en ne faisant rien ? Et à quoi bon alors savoir choisir ? Et à quoi bon un traité de la vie élégante ? Une Givenchy Université ou des formules, si tout est une question moins de faire quelque chose que d'instinct ou d'habitude ou encore de sentiment, pour citer encore Balzac.
Je crois que vous avez une nouvelle formule aussi qui est une sorte de mariage d'ensemble.
Oui, en effet. Par exemple, une jupe bleu marine peut se mettre avec un haut bleu marine qui fait l'effet d'une robe et plusieurs sortes de blouses qui, suivant leur décolleté ou suivant leurs manches, donne une allure différente à la robe.
À chaque heure de la journée aussi. En somme, ce sont les particularités de la haute couture que vous nous donnez au prêt-à-porter.
Un petit peu, c'est ça.
La grande idée de Givenchy, c'était celle-ci, donner la possibilité d'assembler, en fonction de ses goûts et besoins, des pièces séparables. Loin de là, les silhouettes imposées, les total looks et les uniformes consensuels. Et c'est là que s'exerce le choix à peu de frais et d'activité de l'élégant ou de l'élégante, savoir choisir ses pièces, mais sans les faire, sans les créer. Or, n'est-ce pas encore le cas aujourd'hui ? Savoir choisir sans rien faire, se serait-il vraiment perdu ? Ou serait-ce plutôt devenu la norme sans qu'on se le dise ?
Merci Géraldine. Est-ce que vous nous conseillez un livre sur le sujet ?
Le traité de la vie élégante de Balzac qu'on peut trouver aux éditions de Lerne.
C'est noté. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Marianne Chassor, Maud Markiewicz, Isis Jourda, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jean-Guy Lamège qui était à la prise de son aujourd'hui, Jacques Gamblin à la lecture des textes cette semaine, avec Guillaume Gallienne aujourd'hui également pour sa lecture de Proust. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur la virilité. Demain, je recevrai Sam Boursier, sociologue, qui viendra vous parler des fleurs du mal avec un chapeau et un E. par Sam Boursier lui-même. D'ici là, pour écouter cette émission sur le Baron de Charlus de Marcel Proust avec Philippe Berthier, rien de plus simple, rendez-vous en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur Twitter, Facebook et Instagram, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain, à 10h donc. Et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.